RFI, minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'une demi-heure consacré à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, une commission d'enquête sénatoriale qui accuse l'État de dissimulation. On parle du scandale du traitement illicite des eaux minérales. Selon les sénateurs, l'État a été défaillant et a dissimulé des éléments dans cette affaire. À suivre les explications de Victorien Vuillaume. 20 milliards d'euros de nouveaux investissements en France ont été annoncés lors du sommet Choose France. Ce soir, à Versailles, le président Emmanuel Macron a pris la parole devant près de 200 patrons français et étrangers. Justine Fontaine était sur place. Juger plus vite et plus efficacement les mineurs délinquants récidivistes. C'est l'objectif de la loi définitivement adoptée par le Parlement ce lundi. Loi qui avait été proposée par l'ex-premier ministre Gabriel Attal. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Nous entendons un avocat pour qui cette décision va à l'encontre des grands principes de la justice pénale des mineurs.
24 heures en France.
Dans une dizaine de minutes, direction le Festival du film de Cannes, dans le sud de la France. Au programme, un film français, La femme la plus riche du monde, qui adapte librement l'histoire de Liliane Bettencourt. Et puis le réalisateur d'origine haïtienne Raoul Peck nous parlera de son nouveau documentaire sur l'auteur de 1984, l'écrivain anglais George Orwell. Titre du documentaire en question, 2 plus 2 égale 5.
RFI.
6 mois de travaux, plus de 70 auditions. La commission sénatoriale a fini ses travaux sur le scandale des eaux minérales. Le géant suisse Nestlé a déjà reconnu l'usage de traitements interdits sur plusieurs de ses marques pour les rendre conformes à la consommation. Mais là, la commission d'enquête sénatoriale accuse l'État français de défaillance et de dissimulation. Victorien Vuillaume a assisté à la conférence de presse organisée à la mi-journée par les sénateurs pour présenter leur enquête.
Dissimulation de l'État, stratégie délibérée. Après 6 mois de travail, 60 auditions, les mots forts de la part d'Alexandre Wizil. Le sénateur socialiste défend un travail long et minutieux.
Nous nous sommes attachés, verbatim à l'appui, à faire des démonstrations. Ce n'est pas notre avis. Je peux vous dire qu'il y a eu des milliers de pages de documents à évaluer, des milliers de mails, de rapports, de notes internes qu'il a fallu décortiquer pour aboutir à réussir à faire émerger la part de vérité.
Les sénateurs pointent du doigt de nombreuses défaillances, une faible mobilisation de l'autorité publique, l'absence des ministres dans le processus de décision, mais également...
Malgré la fraude aux consommateurs que représente cette désinfection, les autorités choisissent de ne pas donner de suite judiciaire à ces révélations. Il est décidé de ne pas révéler au grand public cette fraude. Lorsque l'État a accepté le plan de transformation de Nestlé, il est passé de traitements qui certes étaient illégaux, mais qui d'un point de vue sanitaire étaient extrêmement robustes, à des traitements qui étaient moins robustes.
C'est important de le noter, l'expression scandale d'État toutefois n'est pas utilisée dans le rapport. C'est ce qu'aurait souhaité Alexandre Wizil et la sénatrice écologiste Antoinette Gull. Sauf qu'il n'y a pas eu de consensus sur le sujet. Le sénateur de droite Laurent Burgois n'était pas de cet avis.
Victorien Vuillaume. Toute autre ambiance, il y a quelques heures, sous les ors du château de Versailles, quand Emmanuel Macron a pris la parole devant près de 200 patrons français et étrangers lors du sommet Choose France. La France que le président tente de promouvoir comme destination privilégiée pour les investissements étrangers. Le rendez-vous est organisé tous les ans depuis le début de son premier mandat. Cette année, Emmanuel Macron s'est félicité d'une annonce de 20 milliards d'euros de nouveaux investissements. C'est un record depuis la création de cet événement en 2017. Justine Fontaine.
Comme pour montrer l'ampleur des efforts nécessaires pour arriver à ce chiffre, le président a tout de même rappelé les difficultés des économies européennes en ce moment, les droits de douane américains et puis la forte concurrence chinoise. En tout, 13 000 emplois directs devraient découler de tous ces projets d'investissement. Parmi ceux annoncés cette année, l'entreprise américaine Circ va investir 450 millions d'euros pour construire une grande usine de recyclage textile, 200 emplois à la clé. Pour son patron Peter Majeranowski, le nucléaire a été un argument important pour choisir la France plutôt qu'un autre pays.
Quand nous cherchions où nous implanter, nous avons regardé de près la question de l'énergie qui est importante dans notre processus de production. Et la France a une énergie qui émet très peu de CO2, qui est très peu chère et très fiable. Vu le contexte de la guerre en Ukraine, ça a compté.
C'est l'une des raisons qui fait de la France le pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers en Europe. Mais malgré ces annonces, l'an dernier a marqué un coup de frein pour la réindustrialisation du pays. En plus du contexte international, l'incertitude politique, par exemple la dissolution de l'Assemblée en juin dernier, ou encore la crise du budget, ont eu une incidence. Les fermetures d'usines ont augmenté de plus de 25% en 2024.
Un reportage signé Justine Fontaine. le chantier de l'autoroute A69 va-t-il reprendre ? La 69 doit relier Toulouse à Castres, dans le sud de la France. Et on s'en souvient, fin février, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé son autorisation environnementale. C'était une première en France pour une autoroute de cette envergure. Et cela avait entraîné la suspension du chantier. Mais ce lundi, le rapporteur public recommande à la cour administrative d'appel de Toulouse d'ordonner la reprise du dit chantier. La cour qui doit donner sa décision d'ici la fin du mois. Près d'un millier de taxis ont manifesté ce lundi à Paris. Ils protestaient contre les nouvelles conditions tarifaires du transport des malades. 64 personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police, pour entre autres dégradation et violence volontaire. Les activités ludiques vont pouvoir reprendre en prison. Elles avaient été interdites en février dernier par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Enfin, toutes celles qui ne concernaient pas l'éducation, l'apprentissage du français ou le sport. Le Conseil d'État vient d'annuler la mesure, expliquant que le ministre peut fixer les conditions d'exercice de ces activités, mais qu'il ne peut interdire ces activités par principe, car ce serait contraire au code pénitentiaire. Amélie Beaucourt.
L'interdiction de février 2025 prise par Gérald Darmanin prévoyait l'arrêt immédiat de toute activité ludique ou provocante en prison. Un mois plus tard, le Conseil d'État avait été saisi par plusieurs associations de défense des droits des détenus, mais aussi par le syndicat de la magistrature et celui des personnels de l'administration pénitentiaire. La plus haute instance administrative a statué ce lundi en leur faveur. L'instruction de Gérald Darmanin constitue un excès de pouvoir. Il ne lui appartient pas de prendre une telle mesure et elle contrevient à la fois au code pénitentiaire et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La mesure du ministre de la Justice n'est pas intégralement annulée pour autant. Interdire l'organisation d'une activité provocante reste possible si elle porte atteinte au respect dû aux victimes. En revanche, le terme « ludique » a lui été supprimé. Le ministère de la Justice s'est félicité que le Conseil d'État valide sa circulaire, à l'exception d'un mot. De son côté, l'Observatoire international des prisons, l'un des requérants, voit cette décision comme un camouflet pour Gérald Darmanin et se félicite de la reprise de centaines d'activités arrêtées depuis février.
Justice toujours avec ce durcissement de la justice des mineurs. Le Parlement a définitivement adopté une proposition de loi de Gabriel Attal pour juger plus vite et plus efficacement les mineurs délinquants récidivistes. Cette loi, l'ex-premier ministre l'a justifiée en s'appuyant sur les émeutes de 2023 dans lesquelles beaucoup de jeunes avaient été impliqués. Je vous propose d'écouter la réaction de maître Arnaud de Saint-Rémy. Il est avocat au barreau de Rouen et responsable du groupe de travail Droits des enfants.
La difficulté, c'est que cette loi, elle va à l'encontre des principes fondateurs de la justice pénale des mineurs, quoi que disent ceux qui l'ont portée. C'est une remise en cause du principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif. Aujourd'hui, c'est le répressif qui va primer, et notamment, la meilleure illustration, c'est l'inversion du principe d'atténuation de peine pour les mineurs, qui aujourd'hui n'existe plus. Nous avons assisté, les bras ballants, à une remise en cause de ce qui a été le fondement de la France, c'est-à-dire le principe de l'éducatif sur le répressif. Aujourd'hui, on va juger un mineur comme un majeur, et ce ne sera que à titre exceptionnel que l'on fera, le cas échéant, bénéficier le mineur de l'atténuation de responsabilité. Et puis surtout, moi, ce qui me choque, c'est que alors que nous étions en train de célébrer les 80 ans de l'ordonnance de 1945, qui rappelait le principe de l'éducatif sur le répressif, eh bien là, on fait l'inverse. C'est-à-dire que la France tourne clairement le dos à ce qu'elle est.
Maître Arnaud de Saint-Rémy, joint par Laurence Théo. Un mot de sport, de rugby. Le Biarritz Olympique, 5 fois champion de France, a été rétrogradé en national, c'est-à-dire en 3e division, pour cause de situation financière dégradée et pour cause d'incertitude sur la continuité d'exploitation. C'est ce qu'a expliqué le conseil de discipline du rugby. Le club, qui a changé plusieurs fois de propriétaire en quelques années, a annoncé son intention de faire appel. On reste dans le sud de la France pour la suite du festival du film de Cannes. La journée aura été marquée par un thriller égyptien, Les Aigles de la République. Nouvelle charge du réalisateur Tariq Saleh contre le président Al-Sissi. Et puis après, celle reçue par Robert De Niro. Une nouvelle palme d'honneur a été remise cette fois à Denzel Washington, juste avant la projection du nouveau Spike Lee, palme surprise. Le secret avait été bien gardé. On va maintenant s'intéresser à un film présenté hors compétition. La femme la plus riche du monde, c'est le titre. Film français de Thierry Cliffa, qui sortira en salle en France en octobre prochain. Cette femme la plus riche du monde, c'est Liliane Bettencourt, interprétée par Isabelle Huppert. L'abus de faiblesse dont elle avait été victime avait été jugé en 2016, un an avant son décès. Mais le photographe François Bagnier, l'homme accusé d'avoir profité des largesses de l'actionnaire principal de l'entreprise L'Oréal, est lui toujours vivant. Le film est donc librement interprété de la réalité. Envoyé spécial à Cannes, Isabelle Chenu.
Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux?
Bah, ils sont morts, c'est mou, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. J'ai vu des...
Drôle, féroce, grinçant, La femme la plus riche du monde est une comédie sur l'avidité d'un arriviste sans foi ni loi et l'ennui inimaginable du grand monde. Dans le film de Thierry Cliffat, le personnage de Marianne Farrer, joué par Isabelle Huppert, a hérité de son père un empire mondial de cosmétiques qu'elle dirige d'une main de fer. Mariée par convention, mère d'une fille à laquelle elle n'a jamais vraiment prêté attention, le film me raconte aussi un combat mère-fille, car Marianne, déjà âgée, va tomber sous la coupe d'un photographe excentrique, charmeur et vulgaire, campé par Laurent Lafitte.
Qui a fait ça? Qui est l'assassin?
Alexandre Zouari à l'Alma.
Ah, mais tout s'explique!
L'escroc s'installe dans l'intimité de la famille et Marianne cède à tous les caprices de celui qui lui soutirera près d'un milliard d'euros. Le bonheur et la légèreté n'ont pas de prix. C'est finalement le petit personnel de la maison, humilié par le sans-gêne, qui causera sa perte. Isabelle Chenu, Victor Hull, Cannes, RFI.
J'ai mis une chemise d'homme parce que je vous emmerde. Et je ne porte pas de bijoux, justement parce que je suis riche.
Et puis l'acteur américain Kevin Spacey va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière, mais ce sera en marge du Festival de Cannes. C'est une fondation indépendante du festival qui décerne la récompense. Cela fait longtemps qu'on n'entend plus parler de l'acteur pour ses films, plutôt pour les accusations qui le visent et les procès qui s'en suivent. Ces dernières années, Kevin Spacey a été acquitté d'accusations d'agression sexuelle en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais cette année, il fait l'objet d'une nouvelle procédure d'agression sexuelle à Londres.
24 heures en France, Christophe Paget.
On reste à Cannes pour un documentaire projeté hors projection qui s'annonce passionnant, un documentaire du cinéaste originaire de Haïti, Raoul Peck. Après l'écrivain noir américain James Baldwin, le photographe sud-africain Ernest Cole, Raoul Peck a choisi de travailler sur George Orwell, l'auteur entre autres du chef-d'œuvre 1984. Dans son film 2+2=5, Raoul Peck montre toute la lucidité, mais aussi l'actualité de l'écrivain anglais. Raoul Peck répond aux questions de Sophie Torlotin.
Bonjour Raoul Peck.
Bonjour.
Vous réalisez un documentaire sur la vie et l'apport de George Orwell, l'auteur de 1984. Est-ce que c'est parce que vous avez le sentiment que 80 ans après l'écriture de cette dystopie glaçante sur le totalitarisme, on vit en ce moment un moment orwellien?
Alors, quand on lit les journaux aujourd'hui, on entend les journalistes, c'est vrai, le mot Orwell et l'adjectif orwellien vient tout le temps. Pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment, pas seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Et en effet, Orwell est le parfait penseur qui a mis sur la table la matrice même d'analyse de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. J'ai découvert un Orwell, en fait, qui est encore plus proche de moi que je le pensais. C'est-à-dire, c'est l'Orwell tiers-mondiste qui naît au Bengale, revient en Angleterre, puis repart après avoir fait Eton.
Eton, le grand
la grande école, école.
La grande collège, voilà, où la bourgeoisie de l'aristocratie britannique.
Absolument, et où on va ensuite soit à Cambridge, soit à Oxford. Lui, il décide de s'engager dans l'armée impériale britannique. Et il part en Birmanie.
Donc la colonie britannique.
La colonie. Et là, il se rend compte qu'il est pratiquement un colon armé qui brime les colonisés, entre guillemets. Non seulement il n'aime pas, mais il comprend en fait toute la construction sociale de sa propre société britannique, mais aussi de comment le monde eurocentrique fonctionne et comment la richesse créée et accumulée dans les pays riches viennent de tous ceux qui viennent de ces pays pauvres.
Oui, c'est ça, c'est intéressant parce que effectivement, il n'est pas vraiment récupérable ce que vous montrez.
Absolument.
Dans ce documentaire.
Absolument. 1984 est publié pratiquement 4 mois avant sa mort. Et donc, on l'a utilisé. On était en pleine guerre froide. Donc, l'ennemi, c'était l'Union soviétique. Donc, on l'a ancré dans ce couloir où il décrit, en effet, ce qui se passait à Moscou. Mais il décrivait tout aussi bien aujourd'hui ce qui se passe à Washington, ou tout ce qui se passe en France, tout ce qui se passe dans tous les régimes qui commencent à dériver vers l'autoritarisme.
Raoul Peck, vous utilisez différentes sources à l'image, des extraits de films, des différentes adaptations de 1984, mais aussi, par exemple, des extraits de films de Ken Loach, des images d'actualité aussi. Une seule source sonore, en revanche, ce sont les mots, que les mots de George Orwell.
Absolument. Je vais chercher dans Orwell tous les mots qui permettent de percuter la réalité.
Ici, Big Brother.
La liberté, c'est l'esclavage.
La liberté, c'est de s'accrocher aux souvenirs. La liberté, c'est la liberté de dire 2 plus 2 font 4. Depuis l'ère de l'uniformité, depuis l'année 1984.
Ce film n'est pas une biographie, ce film est un récit.
On a le sentiment, quand on voit votre film, Raoul Peck, qu'il y a un lien, alors je pense que vous le faites, entre George Orwell qui meurt de tuberculose et cette phrase « I can't breathe » de George Floyd, mort de violences policières aux États-Unis.
Ouais. Cette image, ce sentiment est arrivé dans le processus de montage. Ça devient cohérent, la métaphore de la respiration et du manque de souffle. Et aujourd'hui, c'est malheureusement tellement vrai. D'ailleurs, c'est une méthode stratégique. Quelqu'un comme Steve Bannon, c'est ce qu'il dit. Trump, il dit la même chose. On va les inonder pour qu'ils aient pas le temps de respirer. Paradoxalement, le film répond à tout ça.
Merci beaucoup, Raoul Peck.
Merci à vous.
Raoul Peck au micro de Sophie Torlotin. On rappelle le titre de son documentaire « 2 plus 2 égale 5 ». Qu'en penserait George Orwell ? La ministre de l'Éducation Elisabeth Borne annonce la généralisation de la pause numérique à la rentrée prochaine. Le principe est simple, les collégiens n'auront plus du tout accès à leur téléphone dès qu'ils rentrent en cours. Dans certains établissements, on mène l'expérience depuis un an. Elisa Savat s'est rendue dans l'Aube, au sud-est de Paris, au collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine.
9h sonne et les 600 élèves se précipitent à l'entrée du collège. Premier exercice de la journée, éteindre son téléphone devant le surveillant et le déposer au fond de son sac fermé. Pour Ambre, 14 ans, et en troisième, aucun problème. Elle respecte les consignes sans rechigner.
Je pense que c'est une bonne idée, puisque ça permet de plus concentrer, je trouve, que le téléphone ne sonne pas. Et j'ai une meilleure moyenne que l'année dernière.
Mais tout le monde n'est pas du même avis. Marois, 13 ans, traîne dans la cour avec ses amis, qui tous avouent transgresser les règles.
Franchement, ça sert strictement à rien, parce qu'on continue à faire. Après, je fais pas ça tout le temps non plus, mais je fais comme avant. J'aime bien, ça fait des souvenirs avec nos amis et tout. Puis c'est drôle.
Mais hors de question pour Marois de déposer son portable dans un casier.
C'est nos téléphones. Et puis ça va être super long à les rendre à la fin et tout. Franchement, il vaut plus se casser la tête qu'autre chose. Je vois pas comment il faut s'organiser.
Plus de concentration pendant les cours, moins de dispersion. C'est la volonté de Philippe Grolier, principal du collège, qui a mis en place la pause numérique. Mais si certains collèges récupèrent les téléphones des élèves, ici, on ne souhaite pas prendre la responsabilité de l'objet.
On n'a pas souhaité avoir des armoires dans lesquelles on rangerait les portables. Le problème, c'est que si à un moment ou à un autre, un téléphone qui est mis dans ce casier, soit il est abîmé, soit il est cassé parce que au moment du retrait, quelle responsabilité.
Michel Meunier est professeur de technologie dans l'établissement. La pause numérique est pour lui une bonne idée, mais elle n'est pas révolutionnaire.
Je pense que la pause numérique n'a rien changé par rapport à l'usage global du téléphone, notamment dès que les cours sont terminés. On est resté sur un usage excessif qui peut avoir des conséquences en termes de concentration, de conflits qui se propagent, qui s'amplifient.
Une pause numérique en demi-teinte, mais pour Antonin Cauduis, principal adjoint, le problème se situe peut-être autre part, l'accès et l'utilisation excessive des réseaux sociaux sans contrôle.
C'est une utilisation qui est très très naïve. On interroge parfois des élèves qui se retrouvent sur des groupes, WhatsApp par exemple, avec 800 personnes. Et ils y discutent avec des gens qui ne le connaissent pas. Et on a beau faire des séances de sensibilisation, leur expliquer les dangers que ça représente. C'est très compliqué vraiment de faire passer ce message-là.
L'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes est plus difficile à contrôler, alors qu'un collégien sur 4 déclare être victime de cyberviolence.
Un reportage signé Elisa Savat, RFI minuit 19 à Nogent-sur-Seine, 19h19 à Cayenne.
Le journal des Outre-mer.
À la une de ce journal des Outre-mer, un nouveau centre pénitentiaire de haute sécurité en Guyane. Emma Jaconelli, bonsoir.
Bonsoir. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé son intention d'ouvrir un quartier de haute sécurité dans la future prison de Saint-Laurent-du-Maroni, à l'ouest du territoire. Une annonce qui a suscité des réactions au sein de la population guyanaise. Jonathan Lariot et Clotilde Séraphin-Georges.
Je trouve que c'est un total mépris par rapport à la population guyanaise. Un mépris aussi par rapport à l'histoire qu'on connaît avec le bagne. Une histoire qui n'a jamais lâché la Guyane et qu'ils ont continué à entretenir. Donc ce projet de création ne fera qu'empirer la situation.
Les gens qui décident, est-ce qu'ils sont au courant des choses qui se passent ici en Guyane? Est-ce qu'ils savent un petit peu les affaires, ce qu'on a ici? Donc c'est des politiques qui décident sans savoir ce qui se passe sur le terrain.
Colonialisme, il revient. S'il veut vraiment faire ça, alors je pense que nos politiques vont monter, vont crier haut et fort, vont pas admettre ceci, c'est pas possible.
Alors c'est une bonne chose parce que on sait qu'en Guyane on a déjà un déficit de place dans notre prison. Maintenant de construire une prison dans cet intérêt-là, il faut voir si c'est la meilleure chose à faire parce que c'est quand même du lourd qu'on va accueillir. Donc il faut voir aussi si on a la main-d'œuvre. Si on a la compétence technique.
Un nouvel homicide a eu lieu dimanche à Fort-de-France. C'est le 13e depuis le début de l'année en Martinique. Les policiers ont retrouvé le corps d'un homme d'une trentaine d'années, criblé d'une quinzaine de balles. Deux marches blanches étaient organisées ce week-end sur l'île pour dénoncer la banalisation de la violence armée sur le territoire. Le projet de loi pour refonder Mayotte est arrivé au Sénat ce lundi, 5 mois après le passage du cyclone Chido. Le texte aborde plusieurs chantiers, de la lutte contre l'habitat informel au développement économique. Le maire de Mamoudzou, Amdil Waedou Soumaïla, espère que les choses bougeront enfin pour l'archipel, car malgré les annonces de l'État, l'activité économique décline toujours.
Quasiment au quotidien, nous relançons les services de l'État ici à travers le préfet. On nous dit que les arbitrages qui se font à Paris n'arrivent pas. Donc on ne sait pas qui doit arbitrer quoi. Est-ce que c'est le ministère des Outre-mer? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le président de la République? Force est de constater que 5 mois après, il n'y a toujours pas d'accompagnement. Les entreprises sont en train de fermer tout doucement. On est en train de voir des personnes qui sont en train d'être mises en chômage technique. Voilà, c'est des difficultés sociales qui se rajoutent aux difficultés que nous avons déjà connu. Nous ne comprenons pas, très sincèrement, nous ne comprenons pas pourquoi 5 mois après Chido, il y a 0 € d'aide qui est versée aux collectivités. Il y a eu une première loi d'urgence qui n'a eu finalement d'urgence que le nom. Parce qu'à date, aujourd'hui, depuis que la loi a été adoptée, promulguée, on n'en voit toujours pas la couleur. Le 101e département de France n'est pas considéré dans ce sens. Et ça, c'est malheureux.
Ce week-end à Faa, en Polynésie, plus de 1000 visiteurs ont fait le déplacement pour la toute première journée portes ouvertes de la gendarmerie. Une matinée ponctuée de démonstrations militaires, de rencontres et de découvertes. Objectif, créer du lien, informer et peut-être faire naître quelques vocations. Le reportage de Miri Toumatariri.
Face à la foule, une mise en scène d'enquête grandeur nature. Le GIGN, les experts en identification criminelle sont à pied d'œuvre. Parmi les spectateurs, nous retrouvons Danielle, éducatrice spécialisée du foyer pour jeunes au Royatama. Elle est accompagnée de 6 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Danielle nous confie les raisons de leur venue.
En tous les cas, je les ai amenés à se confondre, je dirais, à la foule, être comme tout le monde. Et ça peut mettre des freins chez les jeunes que je peux comprendre, effectivement, qui ont certainement vécu des choses. La peur, d'entendre qu'on va à la gendarmerie, on va nous regarder. Ça nous porte, en tous les cas, de leur donner la possibilité de découvrir. Et peut-être un jour, c'est eux qui seront gendarmes, qui sait.
Pour cette première édition des Portes Ouvertes, la gendarmerie a vu les choses en grand. Une quinzaine de stands, deux démonstrations d'intervention et des dizaines de questions posées. L'adjudant Anthony Doucet.
L'idée, c'était justement de renforcer, de raffermir ce lien de confiance avec notre population en leur ouvrant les portes de cette caserne militaire et de leur montrer la multitude de métiers différents, de missions qui sont méconnues pour la plupart de notre population. Et pourquoi pas susciter des vocations. L'idée, c'était vraiment de raffermir, d'améliorer ce lien de confiance. En fait, c'est de casser ces idées reçues.
Les enfants jouent les petits commandos pendant que les parents, eux, cherchent à mieux comprendre les missions de ceux qui veillent sur eux. Recrutement, prévention, pédagogie, cette matinée a rempli toutes ses promesses et au vu du succès de cette première, la gendarmerie pourrait bien remettre ça l'an prochain.
C'est la fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Emma Jaconelli. Bonne soirée.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Ce soir, grâce au Conseil Santé, on vous dit tout sur la déshydratation cutanée. Et l'on apprend qu'en cas de déshydratation de la peau, hydrater ne veut pas dire mettre de l'eau dessus. Caroline Paré.
Docteur Anta Soumaré-Soko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue au Centre Hospitalier National de Dal Hadjam de Dakar au Sénégal. Quelles sont les maladies ou problèmes de peau qui peuvent entraîner une déshydratation cutanée?
Il y en a plusieurs, notamment la dermatite atopique. Peut entraîner une déshydratation cutanée. Vous savez, la peau est une barrière, a une fonction de barrière, et elle est composée essentiellement de lipides. qui protège la peau contre ce qu'on appelle la perte insensible, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau contenue dans la peau. Donc, toutes les dermatoses inflammatoires qui peuvent altérer cette barrière sont susceptibles d'entraîner une déshydratation cutanée.
Quand la peau est trop sèche, qu'est-ce qui est conseillé côté traitement comme côté habitude bonne ou mauvaise?
Quand la peau elle est sèche, il est conseillé de l'hydrater. Mais l'hydrater ne veut pas dire de mettre de l'eau dessus, non. Pour hydrater, on utilise des produits gras qui vont avoir une meilleure pénétration au niveau de la peau. Mais également, il va falloir éviter certains gestes qui peuvent être agressifs vis-à-vis de la peau et qui peuvent détruire le film hydrolipidique qui est responsable de l'hydratation de la peau. Et ce film hydrolipidique est constitué non seulement des lipides présents dans la peau, mais également du sébum que la peau sécrète et de la sueur que sécrète la peau.
Par exemple, les filets de lavage qui peuvent, par exemple, être déconseillés.
Tout à fait, tout à fait. Nous avons des habitudes d'hygiène qui sont un peu agressives pour la peau. Le filet de bain est souvent utilisé et la majorité des gens pensent que s'ils ne l'utilisent pas, ils pensent qu'ils ne sont pas propres. Alors que ce filet de bain agresse la peau en enlevant la couche de sébum qui protège notre peau et qui participe à l'hydratation de notre peau.
Merci docteur Soumaré. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des MICI, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique, symptômes, diagnostic, prise en charge, éducation thérapeutique. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est bien noté, Caroline Paré. Et c'est la fin de 24 heures en France, à réécouter comme tous nos autres programmes sur www.rfi.fr. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation et à Charlotte Derouin à la rédaction en chef, le duo dynamique. Dans quelques instants, Afrique Soir. Mais avant cela, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et le rendez-vous de Wall Street, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur une hausse de 137 points et revient à 42 792. L'indice du Nasdaq grappille 4 petits points et finit à 19 215. Le marché obligataire aujourd'hui est le grand perdant. C'est la réaction à la dégradation de la note des obligations du Trésor américain par l'agence Moody's. Cette dernière est la troisième grande agence à retirer à l'oncle Sam son statut de meilleur risque de crédit possible, et ce au regard de l'envolée de la dette publique américaine, du creusement du déficit budgétaire, de l'incapacité des autorités démocrates ou républicaines à maîtriser les recettes comme les dépenses. Le problème est encore corrigible, mais il faudrait une réelle volonté de compromis au Congrès, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Les tractations en cours entre républicains pour faire passer les baisses d'impôts promises par Donald Trump vont vraisemblablement aggraver le déficit budgétaire. Le rendement du T-bond à 10 ans grimpe ce soir à 4,46 et pendant quelques minutes, le rendement du T-bond à 10 ans en séance est même repassé au-dessus de 5%. L'or est le grand gagnant. Aujourd'hui, l'once de métal fin grimpe de près de 2% à plus de 3 230 $, car le billet vert se déprécie, l'euro regagne du terrain et termine à 1,1240 $. Le baril de pétrole américain est pratiquement inchangé, à un peu plus de 62 $. On note une nouvelle chute du cours de Tesla. Les républicains au Congrès proposent de supprimer les aides fiscales à l'achat de voitures électriques. L'indice Dow Jones aujourd'hui s'offre 0,3%. Le Nasdaq est inchangé.
Merci Pierre-Yves Dugas et à demain.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Tchad, quelles peuvent être les conséquences politiques de l'arrestation de Succès Masra? L'opposant est accusé d'avoir diffusé un audio incitant à la violence en lien avec les récents affrontements intercommunautaires dans le sud du pays. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi développer le spatial au Sénégal et sur le continent?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Le spatial comme levier de développement durable? La question est ouverte à Dakar lors de la première édition de la Sénégal Space Week, juste après la création annoncée au Caire de l'Agence spatiale africaine. Comment développer le potentiel spatial de l'Afrique?
Autour de la question. tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.